Go, go, la revue presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver. Oui, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, car ça a été un peu le combo fatal, le petit a eu la grippe. Je l'ai là, je suis en train de la choper aussi à mon tour, c'est un peu... il s'est passé plein de choses, donc pas d'émission la semaine dernière. Une émission un petit peu spéciale aussi cette semaine, mais non dénuée de contenu. Hein. Je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de jeu de la semaine, il n'y aura pas de coup de gueule, coup de cœur, pas de sondage non plus. Donc voilà, de la grippe, énormément de boulot, beaucoup de choses, enfin, qui font que ça a été très compliqué ces 15 derniers jours. Mais l'émission est là, alors si vous entendez des petits bruits, je sais pas si vous allez l'entendre, là vous, derrière votre casque, mais là j'ai le chat derrière qui s'éclate sur son arbre à chat. Donc si vous entendez des petits gling-gling, des petits glang-glang et des petits crunch-crunch, c'est un peu normal. Alors vous le savez aussi, il y a 15 jours, c'était le concours pour gagner le formidable bouquin encore sous blister, et Dieu sait que j'ai envie d'arracher ce blister pour le lire, mais je l'ai gardé rien que pour vous, mes amis. Oui, le bouquin, la révolution arcade de Sega chez Third Edition. C'était le concours d'il y a 15 jours. Normalement, j'aurais dû vous donner le résultat il y a bien longtemps, puisque le tirage au sort, hein, je posterai sur le compte Twitter de l'émission, hein, le screen qui fait foi, le résultat. J'ai déjà le gagnant, en fait, depuis pas mal de jours, mais je le réservais, et j'espère que le gagnant m'excusera. J'attendais là-bas l'émission de cette semaine pour vous le dévoiler. Donc, si j'oublie, n'hésitez pas à le signaler sur Twitter, hein, de poster ce petit screen qui fait foi du tirage au sort. Normalement, je n'oublierai pas. Bref, donc il y avait un bouquin gagné, vous avez répondu à une question par message privé sur Twitter. Tirage au sort, donc, qui a eu lieu maintenant il y a une bonne semaine, hein, déjà, mais dont je gardais donc secrètement le résultat. Et c'est Barry qui a gagné donc le bouquin La Révolution Arcade de Sega, hein, que m'a gentiment envoyé Third Edition, que je salue à nouveau, hein, qui font des bouquins vraiment d'une qualité, j'ai envie de dire premium, hein, n'est-ce pas ? Barry, je te félicite, donc c'est toi qui as gagné le bouquin. N'hésite pas, alors que le petit chat là se la donne derrière, n'hésite pas à m'envoyer ton adresse postale, hein, bah, toujours par message privé, hein, à la suite de ta réponse, et j'essaie de t'envoyer ça dans les plus brefs délais. Donc un grand bravo à toi, et merci à toutes et tous, voilà, d'avoir participé, et je pense donc qu'il est grand temps d'attaquer l'émission. Donc une belle brochette de news, deux sujets derrière, dont un qui me tient vraiment à cœur. Voilà, ce sera pour le sommaire de cette semaine, donc j'espère que vous ne serez pas déçus, que ça vous plaira, que ça vous enjoillera les oreilles. Allez, on attaque avec la brochette de news, car comme d'habitude, j'ai été bien trop long. Ça n'a pas manqué de faire réagir, de faire causer sur les internets et au-delà. Dan Houser, vice-président, producteur et scénariste de chez Rockstar, va quitter Rockstar Games en mars prochain. Jarod, hein, sur GameCult, nous explique que dans un document envoyé le 4 février par Take-Two Interactive à la Securities and Exchange Commission, l'organisme fédéral américain de contrôle des marchés financiers, la maison mère de Rockstar Games donc annonce que le vice-président Dan Houser va quitter l'entreprise donc au mois de mars, hein, donc dans un mois. Le document indique que M. Houser avait entamé un congé longue durée, hein, déjà depuis le début du printemps 2019, et qu'il ne reprendra finalement pas le travail pour quitter ses fonctions donc le 11 mars prochain. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions, a commenté Take-Two Interactive. Donc le départ de Dan Houser rappelle celui de Leslie Benzier, hein, ne pas confondre avec Benzaï, producteur historique de la franchise GTA, hein, nous rappelle GameCult, hein, qui avait lui aussi donc quitté le studio au terme d'un long congé sabbatique début 2016 avant de rentrer en conflit avec son ancien employeur quelques mois plus tard. Donc Dan Houser, hein, est bien connu pour avoir fondé Rockstar Games avec son frère Sam Houser, en plus d'être producteur et ou auteur sur des titres majeurs comme GTA 3, San Andreas, Vice City, GTA 4, 5, Max Payne 3, Red Dead 1 et Red Dead 2. Il est âgé de 46 ans, hein, un peu plus âgé que moi. Le natif de Londres, hein, nous rappelle-t-on, avait mis en lumière sans le vouloir la problématique du crunch dans l'industrie du JV en évoquant les fameuses semaines de 100 heures dans le cadre d'une entrevue sur le développement de Red Dead Redemption 2. Je pense qu'on s'en souvient tous. Donc voilà pour ce départ. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, à votre avis, ça va impacter les futures productions ou celles qui sont déjà en cours, hein. On se doute bien que GTA 6 hein, est dans les tuyaux depuis un bon bout de temps. Est-ce que tout cela va impacter le développement, la production, le contenu des futurs jeux du studio? Car on sait que Sam Houser avait comme un impact assez retentissant, que ce soit sur le contenu, sur le message que pouvaient véhiculer les productions de chez Rockstar. Nous verrons bien. En tout cas, ça a été quand même extrêmement commenté. Alors que le petit chaton se la donne toujours, hein, Kirby, notre chaton, se la donne toujours avec ses joujoux à côté de moi, on va bondir chez Gameblog pour parler du Kickstarter de The Wonderful 101. Et oui, Kickstarter de The Wonderful 101 lancé par Platinum Games, le jeu Wii U donc, qui s'achemine vers un remaster. Alors, sur Switch et sur les autres consoles, en quelques heures, c'était déjà plié. Hein, le Kickstarter, pardon, a explosé. Vraiment, ça a été un gros succès. Je sais même plus où on est le chiffre en ce moment. Enfin, c'est complètement indécent. Bref, quand même sympa de revoir ce jeu peu connu, hein, puisque sorti à l'origine hein, sur Wii U, un jeu cher au studio et à Hideki Kamiya. Je rappelle d'ailleurs que tout ceci est lié au site fort PlatinumGames.com. Vous le savez, un site donc teasing, hein, où Platinum donc annonce 4 projets, 4 annonces, dont la première donc a été dévoilée, donc c'est ce Kickstarter de The Wonderful 101. Et là je suis devant le site, hein, donc for.platinumgames.com, et bah, il y a encore 3 annonces. Annonce 2, annonce 3, annonce 4, ornée d'un petit coming sound. Donc on va attendre cela. Vous savez, c'est un studio que j'aime beaucoup, hein, Platinum Games, hein, ça font partie de mes chouchous. Donc j'ai hâte un petit peu de voir ce qui va se passer, hâte de voir un petit peu quelles annonces vont nous tomber sur le coin du museau. En tout cas, je retourne sur Gameblog, donc qui revient sur ce Kickstarter, hein, qui a explosé en quelques heures, hein, vraiment le... Mais la question qui se pose, et on en avait parlé ces dernières semaines dans l'émission, vous savez que Tencent, hein, le géant chinois, est rentré hein, dans le capital de Platinum Games. Alors pourquoi, avec ces belles rentrées d'argent, pourquoi un Kickstarter? Alors les principaux intéressés ont déclaré, hein, nous rapporte Gameblog, nous avons discuté avec Nintendo, hein, à propos donc du remaster de The Wonderful 101, et ils nous ont grosso modo dit que si nous voulions porter le jeu sur d'autres plateformes, ils n'y voyaient pas d'inconvénient, mais il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes. Platinum Games, hein, je continue de citer, est un studio de développement, pas un éditeur, et nous ne pouvons pas publier de jeu tout seul. Voilà pourquoi nous nous sommes adressés à nos fans pour obtenir leur soutien et concrétiser le projet. L'autre raison est que nous souhaitons pouvoir jauger la popularité réelle du jeu, nous sommes très confiants, mais nous voulons voir jusqu'où nous pouvons aller. Ils ajoutent qu'il faut que tout le monde comprenne que même si notre entreprise a commencé à prendre de l'importance, cela ne veut pas pour autant dire que nous pouvons d'un seul coup faire tout ce que nous avons voulu toujours faire. Jusqu'à présent, tous nos efforts n'avaient pas porté leurs fruits en tant que professionnels, et il nous est impossible de complètement occulter la dimension business d'un développement d'un jeu. Le financement participatif nous donne une perception bien plus précise de beaucoup de choses, y compris des estimations réaliste de ce que les joueurs attendent. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne Platinum Games. N'hésitez pas à me dire hein, sur le compte Twitter de l'émission @revuedepresse, j'y vais tout coller, vous ne le savez que trop bien, ce que vous pensez de ce remaster de The Wonderful 101, puisque dans les stretch goals hein, sur le Kickstarter, au-delà du remaster en lui-même, hein, 60 FPS, 1080p, etc., tout ce que vous voulez, on a aussi des mods qui vont s'ajouter, je crois qu'il y a même un mode en side-scroller, etc. Il y a plein de choses qui vont arriver en plus dans le jeu, donc ce sera vraiment, au-delà du remaster, une édition vraiment augmentée. Donc je sais pas vous, mais moi, ça me fait très plaisir. Nvidia lance enfin, de manière plus concrète, hein, même si c'était en bêta depuis pas mal de temps, son service de cloud gaming, GeForce Now, qui devient tout simplement le Spotify du cloud gaming, hein, nous dit Numérama. Oui, le papier nous dit que GeForce Now, concurrent de Stadia ou encore de Shadow, donc est sorti là il y a quelques jours de sa période de bêta. Nvidia a opté pour 2 formules calquées sur le modèle Spotify. Voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Dans le concret, on nous explique que cela fait bientôt 5 ans que Nvidia est positionné sur le segment du cloud gaming, bien avant les balbutiements de Google avec Stadia et même avant Shadow. Alors que la firme de Mountain View hein, est en train d'essuyer les plâtres d'un lancement compliqué, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et que Shadow, autre concurrent, s'apprête à diversifier son offre, donc Nvidia annonce le lancement commercial de GeForce Now, jusqu'alors disponible sous la forme d'une bêta fermée. Pour concurrencer donc Stadia et Shadow, Nvidia a opté pour un modèle donc rappelant beaucoup Spotify. Hein, donc il est possible d'accéder au service selon selon deux formules. La première, c'est une formule gratuite qui limite les sessions à une heure de jeu et ne garantit pas un accès prioritaire au serveur. Donc si j'ai bien compris, ça vous remet dans une file d'attente après. Une option Founders, donc l'option payante, à 5,49€ par mois avec accès prioritaire, session longue de 6 heures et ray tracing sans engagement. 3 premiers mois offerts, attention. Donc d'emblée, Nvidia prévient, nous explique-t-on, il s'agit d'une nouvelle étape dans le cycle de développement de GeForce Now. À terme, l'offre évoluera. Nvidia mise sur un prix attractif et un timing idéal, nous dit le papier de Numerama.com, pour se lancer donc dans le grand bain. À 5,49€ par mois pour l'option premium, GeForce Now est bien moins cher que Stadia Pro, qui est à 9,99€, et Shadow Boost, qui est à partir de 12,99€. Bien évidemment, nous dit le journaliste, ce tarif n'inclut pas le prix des jeux. La solution de Nvidia se met en réalité en agrégateur des principales plateformes de distribution, Steam, Battle.net, etc. Sachant que certains titres sont optimisés pour GeForce Now, on les retrouve directement dans le client, et d'autres non, on peut y jouer depuis la plateforme de toute façon concernée. Donc techniquement, il faut posséder les jeux. Et à travers donc, l'offre de GeForce Now, vous pouvez y jouer sur un PC entre guillemets virtuel boosté aux hormones. Si j'ai bien compris l'offre, vous me rectifierez si je dis une boulette, mais grosso merdo, c'est ça. Donc techniquement, Nvidia limite volontairement le rendu au 1080p avec un framerate à 60 fps, donc sans oublier le RTX 1 en option. La 4K est envisageable, nous dit le papier, mais pour le moment, le constructeur préfère s'armer de prudence malgré une bêta qui a quand même attiré 300 000 curieux depuis toutes ces années. Donc GeForce Now est compatible avec un PC, Windows, mais Mac aussi, la Shield et les smartphones tablettes Android. Plus tard dans l'année, on pourra visiblement l'utiliser par l'intermédiaire des téléviseurs Android TV et des ordinateurs tournant sur Chrome OS. Nvidia est ouvert à tout, même une application pour les consoles, mais ça ne dépend pas que de lui, vous vous en doutez bien. Donc voilà, je vous mets le lien du papier dans la description de l'émission comme d'habitude, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, puisque Numerama donne beaucoup plus de détails. Mais voilà, donc un nouvel acteur dans cette grande bataille. Est-ce que le succès sera au rendez-vous? En tout cas, la bêta était très prometteuse, ne serait-ce que déjà en termes d'utilisateurs. L'offre est assez agressive, et on va attendre de voir un peu ce qui va se passer, mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir comment tout ça va évoluer. L'un des jeux les plus attendus de la décennie, si ce n'est plus, Cyberpunk 2077, vous le savez, a été repoussé. Le studio CD Projekt se voit épaulé par le studio Qlock qui se joint donc en chantier. C'est jeuxvideo.com qui nous dit ça et qui nous dit qu'en effet le studio polonais Qlock, alors je ne sais pas si on le prononce comme ceci, a annoncé récemment son intégration au groupe de développement donc de Cyberpunk 2077. Alors c'est un studio qui est spécialisé dans les portages mais aussi dans le contrôle qualité, une entreprise fondée il y a une dizaine d'années, donc qui aidera CD Projekt à s'assurer que le jeu sera aussi beau que fonctionnel. Alors pour information, ce studio a œuvré sur Dark Souls remaster ou sur le portage PC de Devil May Cry DMC, ce qui est une preuve de son sérieux. Je rappelle donc que Cyberpunk 2077 n'arrivera pas avant le mois de septembre 2020. Bou bou bou, armons-nous de patience. On va parler de Nintendo tout à l'heure sur les résultats, mais là on va faire un petit segment coronavirus, et oui, puisque cette tragédie qu'est le coronavirus impacte le marché du jeu vidéo. Alors bien évidemment, ça a une importance complètement, je dirais, désuète à côté des victimes, mais vous êtes dans la revue de presse JV, donc on parle de news JV. Là je reste sur jeuxvideo.com, qui nous explique que le coronavirus aura des répercussions sur les productions et la distribution au Japon concernant la Nintendo Switch. Et oui, la Switch, nous dit le site, devrait faire face à des problèmes d'approvisionnement au Japon, alors qu'elle réalise son meilleur début d'année sur l'archipel depuis son lancement en 2017. Les Joy-Con sont également concernés, ainsi que Ring Fit Adventure et son accessoire, le Ring-Con, actuellement en rupture de stock. Autre conséquence, nous dit la news, les joueurs japonais vont devoir patienter avant de pouvoir précommander la Switch édition Animal Crossing New Horizons. Censé ouvrir le 8 février, les précommandes sont repoussées à une date indéterminée. Donc tout comme Microsoft et Sony, Nintendo produit la majorité de ses consoles en Chine, même si la firme de Kyoto a déplacé une partie de sa production au Vietnam l'an passé. Donc de nombreuses usines ont été fermées. Autre secteur du JV qui est impacté par le coronavirus, c'est le Taipei Game Show 2020. Oui, là, on revient sur GameCult. Salon qui était initialement programmé du 6 au 9 février au parc des expositions de Nangang. L'événement est décalé jusqu'à l'été prochain. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs soucieux, nous dit-on, de ce pays aux mesures d'urgence déclarées par l'OMS. Taïwan, qui est impacté également par le coronavirus, doit donc aussi chambouler son calendrier. La veille de cette annonce, nous dit-on, les organisateurs du Taipei Game Show avaient communiqué une série de mesures de prévention suivant les consignes des autorités sanitaires locales avant d'annoncer finalement ce report, hein, tout simplement. Donc on nous rappelle qu'en 2019, ce salon avait attiré pas moins de 320 000 visiteurs en l'espace de 4 jours, faisant de lui un des salons les plus fréquentés du milieu, aux côtés de la Gamescom, de la Paris Games Week, hein, du Tokyo Game Show et du China Joy. Le salon s'apprêtait à accueillir la conférence Asia-Pacific Games Summit avec des intervenants comme Shinji Hashimoto, Atsushi Inaba et Hideki Kamiya, excusez du peu. Des éditeurs comme Bandai Namco, Sega Games et Sony Interactive Entertainment avaient également prévu de faire le déplacement avec un catalogue conséquent ainsi qu'une série d'émissions en direct. Donc c'est, même si on en parle un peu moins souvent, comme ce salon, hein, le Taipei Game Show, a quand même une importance concrète, hein. Alors les organisateurs, hein, du salon ont déclaré, je cite, « Considérant que les rassemblements de masse comme le Taipei Game Show augmentent les risques d'infection de groupe, hein, le comité d'organisation a décidé de ne pas prendre de risques impensables. Nous demandons sincèrement aux exposants de faire preuve de compréhension face à une décision aussi importante. » Alors au-delà de tout sensationnalisme, hein, qui serait vraiment malvenu, oui, le coronavirus impacte l'univers du JV, comme la sortie de The Outer Worlds, hein, sur Switch, qui est donc repoussée lui aussi, là on reste sur Gamecult, qui nous explique que le lien entre le coronavirus et donc le RPG d'Obsidian, hein, qui devait arriver sur Switch, c'est le studio chinois Virtuos, hein, le studio chinois Virtuos en charge de ce portage pour le compte de Private Division. Sur Twitter, le label Take-Two Interactive a annoncé que les locaux chinois de Virtuos font partie des entreprises qui ont dû interrompre leur activité en rapport avec l'épidémie. Ce qui explique donc, hein, ce report. Alors pas de date, hein, pour l'instant concernant ce report, mais vous savez aussi que cette adaptation Switch de The Outer Worlds avait fait parler, puisque à l'origine, la sortie boîte était une véritable fumisterie, puisque dans la boîte était prévu que les joueurs trouvent un code de téléchargement pour donc récupérer le jeu de manière dématérialisée, une boîte avec juste un code de téléchargement à l'intérieur, ça fait beaucoup râler, et on a appris que la boîte abritera finalement une cartouche. Donc pour ceux qui attendaient ce RPG d'Obsidian, qui a un petit peu divisé, j'ai l'impression, mais qui reste néanmoins quand même, je pense, globalement, de très bonne facture, je pense que ça fera plaisir à ceux vraiment qui attendaient de s'y adonner sur Switch. Tiens, on va rester dans les packaging, puisque figurez-vous que Sega Europe, lance des packaging écologiques. C'est officiel, c'est à compter donc du 6 février, donc il y a quelques jours, qui était la date de lancement de Total War Rome 2 Enemy at the Gate Edition. Et ben, sachez que toutes les prochaines sorties physiques PC de Sega Europe, hein, feront appel à des packaging complètement recyclables. Ils sont plus coûteux à produire, hein, mais ce sont des emballages en fibre de carton recyclé qui sont grandement moins polluants. Une décision, nous explique-t-on, qui fait suite à un premier essai mené l'année dernière avec Football Manager 2020 et qui avait, selon les calculs de Sega, avait permis d'économiser 20 tonnes de plastique. Donc on salue vraiment cette initiative et ce serait bien que plus d'acteurs du milieu s'y mettent. Alors là, on va aller sur Allociné, oui, une fois n'est pas coutume, qui a interrogé Christophe Gans. Christophe Gans, alors vous me voyez venir, hein, Silent Hill. Je rappelle que l'adaptation de Silent Hill par Christophe Gans, même si elle n'était pas exempte de défauts, reste pour moi la meilleure adaptation d'une licence JV. Je rappelle pour ceux qui... J'avais beaucoup écrit ça à l'époque d'IGMAG et même pour d'autres magazines sur lesquels j'ai écrit. Christophe Gans est un vrai passionné de la saga Silent Hill, qui est une saga chère à mon cœur, tout du moins la première trilogie, qui s'était battu, mais vraiment battu pour que Konami lui cède les droits pour faire l'adaptation. C'est un vrai passionné, il aime le jeu vraiment de toute son âme, j'ai envie de dire. Et même si le film a pas mal à certains défauts, il reste quand même, il transpire l'amour de l'œuvre originale, voilà, et c'est pour ça que les petits défauts, pour moi, sont pardonnables dans le film Silent Hill. Bref, dans cette interview sur Allociné, on demande à Christophe Gans sur quel projet il travaille en ce moment. Et là, je vais carrément le citer. « J'ai deux projets de films d'horreur avec Victor Adida. Je travaille sur l'adaptation du jeu vidéo Project Zero, Fatal Frame. » Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette série d'horror game, de survival horror, où vous capturez les entités photomatiques avec un appareil photo. Hein, ça se passe dans un Japon vraiment traditionnel. C'est extrêmement connu en tout cas. Ça l'était pour tous ceux qui aiment les jeux d'horreur. Bref, il nous dit « Le film se passera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu par rapport à son cadre de maison hantée japonaise. » Et ça, c'est très bien. Et il dit aussi « Attention, Et on travaille également sur un nouveau Silent Hill. Le projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine ravagée par le puritanisme. Je pense qu'il est temps d'en faire un nouveau. Voilà, et donc ça pour moi c'est déjà une excellente nouvelle, sachant que du côté de chez Konami, vous le savez, on va ressortir du Silent Hill. Ça me fait un peu peur. Si vraiment ils pouvaient rassembler les acteurs originaux, ce serait fabuleux, mais bon bref, ne rêvons pas. Allociné demande à Christophe Gans, le succès du premier reste un beau souvenir pour vous, point d'interrogation ? Il répond, je cite, « Oui, un très beau. D'autant plus que je n'ai écopé d'aucun problème durant la production. Ils m'ont laissé faire le film que je souhaitais. Lors de sa sortie en salle, il est arrivé premier au box-office et j'ai ressenti un grand sentiment de satisfaction. Il faut dire qu'il existe peu de réalisateurs français qui ont pu décrocher ça. » On lui demande ce qu'il a pensé de la suite, Silent Hill Revelation, c'est-à-dire le deuxième film qui était... Voilà, j'ai même pas voulu le voir, hein, pour ainsi dire. Il nous dit « Honnêtement, je ne l'ai jamais vu. Je devais le réaliser, mais lorsque j'ai compris que les producteurs souhaitaient faire du film, une sorte de Resident Evil, j'ai refusé. Je voulais rester fidèle à mon orthodoxie. Par exemple, Craig Freeman, La Belle et la Bête restent très proches des œuvres originales. Ce sont des œuvres d'art qui ont été développées dans un médium différent, donc je ne peux pas me donner le droit de l'abîmer. Malheureusement, pour la suite de Silent Hill, le verdict du public a été brutal. Donc encore une fois, aucun regret. » Dit-il en riant. Donc, c'est comme une très très bonne nouvelle. J'espère que... Alors, on sait que souvent, les projets de Christophe Gantz, très souvent même, hein, deux fois sur trois, il y a une annulation, il y a un truc qui s'est mal passé, etc. La filmographie quand même du bonhomme reste très maigre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce monsieur. J'ai beaucoup aimé le film Silent Hill, même si, de par son identité, son état de film, on ne peut pas retranscrire ce que nous font ressentir les trois premiers Silent Hill, puisque, je le répète, hein, c'est jeu qui avait une narration vraiment avant-gardiste, hein, vraiment... L'intelligence du propos de Silent Hill passe par le prisme de l'interactivité qui est propre aux jeux vidéo. Voilà. Donc je trouve que pour le film Silent Hill, Christophe Gantz s'en était malgré tout très très bien sorti. Donc bah, j'ai hâte qu'on ait des news de ce côté-là. On va parler un petit peu, enfin pour terminer, de Warcraft 3 Reforged. Alors oui, je sais pas si vous avez suivi ça aussi, mais voilà, ce remaster de Warcraft 3 qui était très attendu a énormément déçu les joueurs. Des limitations en tout genre qui impactent même l'ancienne version de Warcraft 3. Beauté graphique qui n'est pas là, les joueurs brimés de part et d'autre. Bref, ça a été un sacré cafouillage. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'était quand même un sacré bordel. Et donc, il est possible de se faire rembourser le jeu, puisque Blizzard a mis à disposition un moyen donc de remboursement rapide. Non, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Il faut vous connecter à votre compte, Blizzard, hein, et après, vous avez une page qui est dédiée. Blizzard qui, ces derniers temps, cumule un petit peu les déboires, qui égratine un petit peu l'image d'excellence qu'avait la boîte. Mais voilà, donc sachez que si vous faites partie des déçus, vous pouvez vous faire rembourser. Allez, on passe à la suite. Nintendo a dévoilé des chiffres assez impressionnants là tout récemment. Oui, résumé du briefing des derniers résultats financiers de Monsieur Nintendo. On va parler de ça. Heureusement que NintendoDifference.com à nouveau est là puisque il nous a fait un beau résumé, hein, et notamment par la plume de ce cher Klaus, de tous ces, voilà, ces résultats absolument dithyrambiques de Nintendo. Vous avez vu ça popper en diverses news ici et là. Voilà, Nintendo Difference nous a fait un bon compte-rendu. On va parler des grandes lignes, oui, puisque le briefing donc, des derniers résultats financiers de Nintendo pour le trimestre qui s'est terminé le 31 décembre 2019 a été publié. Et donc le président Shuntaro Furukawa peut bomber le torse, puisque les résultats sont effectivement très, très, très bons. On nous dit, hein, sur Nintendo Difference, que le projet principal de Nintendo consistant à faire connaître ses franchises à un plus grand nombre de personnes ne change pas depuis 2015 et la société compte continuer la conception et le développement de produits et services uniques pour attirer encore plus de monde. Nintendo veut aussi continuer l'utilisation des comptes Nintendo et M. Furukawa affirme que ses équipes commencent bien à voir les résultats de tous leurs efforts. Ces dernières années donc, et particulièrement donc en 2019, hein, l'année dernière, les initiatives se sont multipliées avec l'arrivée notamment de la boutique Nintendo Tokyo ainsi que la création et la promotion de Super Nintendo World. Très belle vidéo d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le film d'animation Mario qui est toujours prévu pour 2022 et dont la production avance bien. Nintendo est également satisfait du développement des jeux sur mobile, notamment avec Mario Kart Tour qui, sorti au mois de septembre de l'année dernière, a bénéficié du meilleur lancement parmi toutes les applications iOS et Android sorties par Nintendo. Oui, la société affirme que Mario Kart Tour est joué par un grand nombre d'utilisateurs, 40% étant des femmes selon les données des comptes Nintendo. Concernant, puisque vous l'attendez bien sûr, la Nintendo Switch, sachez que la firme a enregistré de très très bons résultats au cours des fêtes de fin d'année. Nintendo Niférence nous dit que la barre des 48 millions de consoles présentes sur le marché a été franchie. Nintendo a présenté d'ailleurs plusieurs graphiques pour le Japon, l'Amérique du Nord et l'Europe, montrant comment les ventes de la console ont augmenté durant l'année fiscale. Bien sûr, à chaque fois, nous dit-on, c'est avec la sortie de la Switch Lite et le Black Friday que les ventes ont connu une forte augmentation. Il y a eu également la sortie de plusieurs titres importants, Ring Fit Adventure, Luigi's Mansion 3, ainsi que Pokémon Épée et Bouclier. D'ailleurs, les ventes de Ring Fit continuent encore et encore d'augmenter, surtout au Japon et en Corée du Sud, et aussi sur le territoire de l'Asie de l'Est. En Occident, le jeu et l'accessoire se sont vendus à 1,7 million d'exemplaires. Cependant, Nintendo indique que malgré le stock continu qui est fourni pour l'Asie de l'Est, Ring Fit Adventure est toujours rapidement en rupture de stock et beaucoup de personnes attendent encore de se le procurer. Furukawa tenant d'ailleurs à s'excuser à ce sujet. Luigi's Mansion 3, les ventes ont été très très fortes, plus de 4 millions d'unités vendues en 9 semaines dans le monde, soit plus du double de Luigi's Mansion 2 sur 3DS. Nintendo ayant aussi noté que les ventes ont été plus élevées en Occident. Épée et bouclier, donc Pokémon, ont bien sûr également été évoqués, vous vous en doutez, avec une comparaison au niveau des ventes aux côtés de Soleil, Lune, XY et toute la bande, et ce durant les 9 premières semaines de commercialisation. 12,28 millions d'exemplaires d'épées et boucliers avaient été vendus dans le monde et c'était un véritable record qui a même surpassé Soleil et Lune. Je vous le dis, ça va très bien pour Nintendo, vraiment là, Nintendo va mourir bien sûr. Furukawa affirme que depuis le début de l'année, les ventes n'ont cessé d'augmenter et que épées et boucliers continueront à se vendre sur le long terme, comme d'autres titres importants édités par Nintendo. Nintendo, vous le savez, spécialiste des long-sellers. En parlant des autres titres, leurs ventes ont continué d'augmenter fin 2019, Nintendo ayant enregistré 56,59 millions de jeux vendus, ce qui représente une augmentation de 26% par rapport à 2018. Les ventes de jeux proposés par d'autres éditeurs ont aussi considérablement augmenté, ça c'est comme important de le souligner, avec une augmentation de plus de 50% entre avril et décembre 2019. Niveau fonctionnalité en ligne, Nintendo a comptabilisé plus de 15 millions de comptes qui ont payé un abonnement au service Nintendo Switch Online. Le président Furukawa indique que Nintendo va continuer à proposer de nouveaux contenus pour ce service, d'autant plus que on va entrer dans le 3e anniversaire de la Switch. Les équipes de Nintendo croient qu'ils ont réussi à construire une base importante qui permettra de continuer à créer de grandes opportunités pour la console à l'avenir. Donc désormais, il y a deux styles de Switch, vous ne le savez que trop bien. La Switch Lite, deuxième modèle qui est sorti en 2019, Nintendo a remarqué que les ventes ont été bien plus élevées que pour 2018. Cependant, la société admet que les fonctionnalités spéciales de la console n'en sont pas encore à leur point culminant et la société va donc continuer d'insister sur l'attrait de la Switch Lite dans les mois à venir. Monsieur Furukawa révèle également que Nintendo n'a pas pour projet de sortir de nouveaux modèles de Switch en 2020. Il est vrai qu'on a pu lire et entendre sur les internets qu'un nouveau modèle de Switch, une Switch dite Pro, allait sortir en 2020. Bon, d'après Nintendo, c'est niet. Toutefois, de nouveaux packs devraient être proposés, comme celui qui a été révélé là il y a quelques jours, le magnifique pack Animal Crossing avec ses Joy-Con mignons tout plein. Et je sais qu'il a fait chavirer nombre de cœurs et parmi les auditrices et les auditeurs de la revue de presse JV. Oui, je vous vois sur Twitter, je vous ai vu. Bref, continuons. Monsieur Furukawa a indiqué aussi et a souhaité surtout faire part de la facilité du développement sur Switch, ce qui permet donc de proposer de nombreux titres auxquels on peut jouer régulièrement sur le long terme. À l'heure actuelle, donc, selon le président de Nintendo, il y a 48 millions de consoles sur le marché. De nombreux utilisateurs continuent d'acheter les jeux déjà sortis, en plus des nouveaux, ce qui permet à Nintendo de se concentrer sans problème sur le développement de jeux et de nouveaux contenus pour ceux qui existent déjà et qui ont une base bien installée. Donc c'est le cas de Pokémon Épée et Bouclier, de Smash Bros Ultimate qui vont recevoir, vous le savez, des nouveaux contenus payants. Bien sûr, Monsieur Furukawa a encore une fois indiqué que de nouveaux jeux sont en cours de développement chez Nintendo, en plus de ceux que nous connaissons déjà, mais aussi chez d'autres sociétés, dont bien évidemment des titres indépendants qui occupent une place très importante sur Switch. Enfin, pour continuer à créer de grandes opportunités pour la Switch et l'avenir de l'entreprise, qui ne peut plus se reposer sur ses vieilles connaissances, Nintendo a pour projet de consolider les bureaux de Tokyo et d'ouvrir un nouveau bureau qui se trouvera à Kanda Nishikicho, donc ça c'est à noter. Également, une nomination advisory committee a également été établie pour assurer l'élection de directeur, au pluriel, par exemple, mais aussi augmenter l'objectivité et la transparence de l'entreprise. bon. Hein, Nintendo se sent bien, Nintendo est sur son nuage. Donc j'espère, et grâce à Nintendo Différence, hein, bien sûr, que je remercie à nouveau, vous avoir à peu près résumé toutes les belles annonces, ces belles annonces de chiffres. On peut le dire, Nintendo va bien. Hein. Je pense qu'on peut résumer ça à ces quelques mots. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la-revue-de-presse-jv, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Vous savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi, maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet, vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon, donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement et je fais mille bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon de me soutenir car vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos finalement car je fais l'émission vous le savez le week-end et certains soirs de semaine en plus de mon boulot et au-delà du type de l'aspect financier c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Bref, encore mille merci pour votre soutien. Les jeux vidéo au secours de notre santé mentale. C'est un papier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pu lire sur jeuxvideo.rds.ca. Je salue tous nos amis canadiens. Je sais pas s'il y a des Québécois qui m'écoutent, mais en tout cas, je vous fais un gros bisou. C'est un papier écrit par Marie-Lune Brisebois, un papier très intéressant qui nous dit que le jeu vidéo est un média qui se voit démonisé alors qu'il s'agit à la base d'une forme d'art ou de divertissement excessivement vaste et varié qui mérite que l'on s'attarde à son apport positif dans notre société, et je suis bien d'accord. Elle nous dit que plusieurs études, ayant entre autres démontré que certains types de jeux peuvent être d'une grande aide en santé mentale, l'approche de la journée Belle Cause m'a donné envie d'en savoir plus sur cet aspect encore méconnu, nous dit donc Marie-Lune Brisebois. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la journée Belle Cause, hein, B-E-2-L, cause hein. Alors j'étais me renseigner, c'est une journée où les Canadiens et les gens du monde entier contribuent à créer un changement positif pour les gens vivant avec une maladie mentale. C'est un appel aux dons que Belle, donc un BE2L, je rappelle, verse pour multiplier les initiatives canadiennes en matière de santé mentale, aide, recherche, etc. Mais revenons donc au papier de Marie-Lune Brisebois, qui nous dit, je cite, « Mon idée de base était de vous raconter l'histoire d'une personne aux prises avec des troubles mentaux et dont la vie a changé positivement grâce à un jeu vidéo. Je me suis donc tourné vers les réseaux sociaux afin de dénicher cette personne spéciale. À ma grande surprise, hein, nous dit-elle, à peine quelques minutes plus tard, ma messagerie débordait de témoignages, tous plus touchants les uns que les autres. » Voici donc un condensé de toutes ces belles histoires de vie transformées grâce aux méchants jeux vidéo. La journaliste nous dit que, pour plusieurs, hein, le plus grand combat de la dépression est de se sentir utile, comme s'il fallait justifier notre droit à l'espace que l'on occupe sur Terre, ce qui n'est pas aisé lorsque l'on n'arrive plus à sortir de son lit ou de son pyjama. Les divertissements qui s'offrent à nous deviennent limités et peu engageants, surtout avec le manque de motivation et de concentration. Et c'est là que les jeux vidéo deviennent une planche de salut. Non seulement ils permettent de se divertir tout en restant dans un état participatif, mais comme la plupart fonctionnent avec un système de récompense, ils permettent une gratification instantanée qui influence la production de sérotonine. Résultat, notre cerveau reste actif et ressent à nouveau de la satisfaction. Une fois cette dynamique enclenchée, le fait d'avoir envie de continuer sa partie, de relever un défi, de battre son record ou tout simplement de revivre ses bons moments, donne une nouvelle raison de se lever le matin. Cela peut sembler minime, hein, nous dit l'auteur, mais pour une personne au bout du rouleau, il s'agit d'un pas énorme. Dans la même veine, sortir de chez soi devient une tâche très lourde lorsque l'énergie nous manque, que ce soit pour cause de maladie mentale, repos forcé, deuil ou tout autre obstacle de la vie. L'humain a toutefois besoin de contact, au moins de temps en temps, pour s'épanouir. Avec la venue des jeux en ligne, les gens pour qui socialiser est plus ardu peuvent maintenant se faire des amis, se créer une communauté dans le confort de leur salon. Il existe une multitude d'histoires d'amitié développées en ligne et qui ont changé des vies. Il est faux de croire que ces amitiés ont moins de valeur que celles créées, entre guillemets, dans la vraie vie. Tout dépend de leur impact sur nous. Marie-Lune Brisebois poursuit « Lorsque l'on parle de jeux vidéo, on pense automatiquement à des fusils, une course de voiture ou une mission truffée de monstres à combattre. Pourtant, les jeux narratifs de type puzzle et d'exploration ont de plus en plus la cote. S'il peut être valorisant de tuer des méchants ou d'arriver en première place d'une course sur un arc-en-ciel, il est possible de choisir un divertissement loin de tout ce stress. Il a été prouvé que le magnifique jeu Gris pouvait calmer les crises d'anxiété de par sa mécanique lente et fluide. » Le jeu narratif Gone Home a également donné les mêmes résultats en plus de posséder une narrative inclusive. La franchise sur mobile Un Monument de Valais est sortie gagnante d'une étude sur l'aide à l'hyperfocus et la concentration chez les gens atteints de troubles de déficit d'attention. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous savez que mon fils est autiste Asperger et l'une des résultantes de cette neurodiversité, c'est des troubles de l'attention. Des grandes difficultés à se concentrer, ce qui peut amener des soucis à l'école ou dans la vie de tous les jours. Et je ne savais pas, avant de lire ce papier, que Monument de Valais, un jeu d'ailleurs qui m'a toujours attiré de par déjà sa direction artistique que je trouve magnifique, je ne savais pas que le jeu avait ses bienfaits sur la concentration. Donc je vais m'y pencher très sérieusement, je referme la parenthèse. La journaliste nous dit que MedWorks Media a d'ailleurs établi une liste des jeux et applications adaptées au déficit d'attention, une liste que l'on peut consulter en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Effectivement, il y a une liste, hein. MedWorksMedia.com nous présente donc une liste d'applications et de jeux. Alors la liste n'est pas très grande, hein, qui visiblement donc aide, hein, les personnes qui sont en déficit d'attention. Très intéressant, je ne connaissais pas cette liste, hein, vraiment. Donc, la journaliste poursuit. Quant à Proteus, jeu simpliste basé sur les sons et les couleurs, il a su calmer les gens en crise de panique ou dans un moment d'anxiété sociale. C'est vraiment très intéressant ce papier, puisque je pense qu'on est nombreux aussi à faire preuve d'anxiété. On a tous, voilà, nos soucis en la matière. C'est là-dessus aussi que je trouvais ce papier très intéressant. Bref, je poursuis. Et ce ne sont là que quelques exemples, hein, nous dit-elle. Les studios sont de plus en plus sensibles aux réalités différentes de leurs joueurs et commencent à penser leur création en conséquence. Donc face à ces constats, nous explique Marie-Lune Brisebois, plusieurs studios et groupes de recherche ont décidé de mettre les nouvelles technologies au service de la médecine. Notamment, en plus d'offrir une possibilité d'évasion virtuelle, hein, la VR a également ouvert plusieurs portes pour la recherche sur la gestion du stress et de la douleur chez les jeunes patients. Des applications comme Gong ont vu le jour afin d'aider les patients aphasiques à communiquer. Le projet Evo a été évalué par des firmes de chercheurs qui concluent que l'application aide grandement les habiletés cognitives et moteurs des enfants autistes avec certains troubles d'apprentissage, comme le rapporte un article de Black Note, le mag, datant de janvier 2019. La gamification de la science nous apporte déjà énormément et nous n'en sommes qu'à ses débuts. Donc il y a vraiment des raisons d'être très positif et optimiste sur la question. Elle nous dit aussi: j'aurais aimé rendre le tout plus personnel, vous parler de chaque individu et de comment sa vie a été améliorée drastiquement ou même sauvée grâce aux jeux vidéo. Comme Sarah, à qui Kirby a appris qu'il était possible d'échouer et de se relever aussi souvent qu'il le faudra. Blaise, pour qui le bruit de la mer dans Assassin's Creed Black Flag a aidé à faire le deuil de sa grand-mère, loin de lui, dans sa ville natale française. Ou Julien, pour qui la carrière de ses rêves s'est avérée réalisable grâce à Mario, et la vie bien plus douce grâce à son ami Link. Mais je soupçonne que plusieurs d'entre vous en faites partie, que vous l'avez aussi observé autour de vous. Je refais une parenthèse, vous savez que c'est un petit peu la spécialité de l'émission. Je vous en ai parlé plein de fois, et il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs dans l'émission, des bienfaits. Quand j'étais revenu sur cette fameuse brochure qui faisait peur, sur l'addiction, alcool, tabac, jeux vidéo, je vous avais parlé des bienfaits que ça avait apporté à mon fils, le jeu vidéo, sur son estime de soi, sur sa communication avec les autres. Je vous renvoie aux émissions précédentes, mais je vous en avais déjà parlé. Et là aussi, il y a une connexion avec ce papier-là. Bref, la journaliste termine en nous disant que, je la cite à nouveau, « J'ai le souhait que ce monde merveilleux qu'est le jeu vidéo gagne enfin ses lettres de noblesse pour tout le bonheur et les bienfaits qu'il peut nous apporter. Je souhaite surtout que le tabou entourant la santé mentale soit levé. Nous avons toutes à un moment ou un autre, besoin d'aide, que ce soit par la médecine, notre entourage ou encore un plombier moustachu roulant sur une tabarlie de carapace bleue. Alors s'il vous plaît, gens de cette belle communauté, si ça ne file pas, file, F-E-E-L, faites signe. » Et elle met un lien sur un autre article, donc du site jeuxvideo.rds.ca, sur Belle Cause, dont je vous avais parlé là il y a quelques minutes. Et donc je vous mettrai le lien de toute façon dans la description, comme d'habitude. Voilà, j'ai adoré ce papier, vraiment. Je vous avoue que je ne connaissais pas ce site, jeuxvideo.rds.ca, donc site canadien. Très positif, très feel good et en même temps très bienveillant en posant aussi de vraies questions. C'est vrai que la maladie mentale, et d'ailleurs ils le disent sur le site également à juste titre, est vraiment très mal vue, très stigmatisée, alors que beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense sont victimes d'une maladie mentale. Ça peut vraiment couvrir un spectre assez large, et là je ne parle pas d'autisme qui est une neurodiversité, là je parle vraiment d'autre chose, mais d'une manière beaucoup plus globale, l'aide du jeu vidéo, je trouve que c'est un sujet passionnant au-delà du plaisir que nous apporte le jeu vidéo, s'il peut en plus aider les gens, et je vous ai souvent parlé de ce prisme-là dans l'émission. Écoutez, je trouve ça formidable. Si vous avez des témoignages en ce sens, n'hésitez pas. En tout cas, comptez sur moi pour vous rapporter encore ce type de papier-là quand j'en trouve. C'est l'une des raisons vraiment où je suis très content de faire cette émission. Et voilà, l'émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, malgré sa forme un petit peu, on va dire, allégée, mais néanmoins quand même pas mal, avec pas mal de contenu quand même. Vous le savez, vous pouvez m'aider sur Tipeee, vous pouvez m'aider sur Patreon. J'aimerais donc remercier les contributeurs de l'amour. Vraiment, merci, merci, merci à vous. Merci à Trifon, merci à Electrotactics, merci à Luterian, merci à Neo Calimero, merci à Tophobie, merci à Yvan Le Pierrot, à Nicolas, à X Nihili, à Aza, à Evolix, à Forza Pedro, à JP Madère, à Mopra, à Siwididju, à Garan, à HXC, à Carnoct, Melkioc, Monsieur A. Merci à Bertrand, coucou Bertrand Amar, merci à Crocodine, merci à Mallory, merci à Pipolitsu, merci à Esteban, merci à Fabien. Merci à MachinTruc76, coucou MachinTruc, gros big up. Merci à Lunanounette, merci à Pikachu, merci à HL9, merci à Yvan, merci à Slecoanet, merci à toutes et tous, et merci à Gontran sur Patreon. Merci vraiment pour votre aide si précieuse. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine, et puis bah voilà, je vous fais un gros béco, et je vous dis à tantôt. Bye bye.